France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Retour sur la 76e Berlinale ce samedi dans Plan Large avec Alain Gomis, Cathy Correa et Joey Cuadio, avec aussi Yolande Zobermann et Ailey Guérima et encore Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Dernier week-end pour la 76e édition de l'International Film Festival Berlin, le festival international du film de Berlin, qui a commencé par une polémique d'ampleur, le président du jury Wim Wenders ayant pour le moins maladroitement botté en touche en conférence de presse à la question d'un journaliste sur Israël et la bande de Gaza, déclarant que le cinéma devait, je le cite, rester en dehors de la politique. Une position qui dit tonner. Évidemment, dans un festival qui a toujours été politique, ne serait-ce que par sa création en pleine guerre froide, en vitrine du monde libre, dans une capitale qui avait été peu avant celle d'un des pires et plus criminels régimes de l'histoire. Force fut cependant de constater que, de fait, politique, les films, notamment en compétition, l'étaient moins cette année. Sa directrice depuis mai 2024, l'américaine Trisha Tuttle, ayant sans doute eu à cœur d'apaiser une autre polémique, celle de l'an dernier, où journaux et élus allemands avaient fustigé l'excessif soutien de personnalités et de cinéastes aux victimes de la destruction de Gaza par l'État hébreu. D'où peut-être une certaine tiédeur prudente dans la programmation cette année, notamment en compétition. Quelques œuvres, cependant, ont tout de même brillé par leur inventivité et leur audace, dont un film franco-sénégalais, Dao, projeté dans les premiers jours. Alain Gomis, le réalisateur d'Andalusia, aujourd'hui est félicité. Il met en scène une famille d'origine sénégalo-guinéenne dans deux temps et deux lieux, très musicalement très par le montage, une cérémonie de deuil d'abord dans le village originaire de Guinée-Bissau qui, 2 ans après le décès d'un père, le consacre en ancêtre, et puis une autre cérémonie de mariage, celle-là, qui en banlieue parisienne réunit toute la famille pour se célébrer mais aussi régler quelques comptes anciens. Alain Gomis et ses deux actrices principales, les révélations Cathy Correa et Joey Cuadio, sont nos premières invitées. Nous entendrons ensuite présenter en section parallèle les cinéastes Yolande Zobermann et la légende des cinémas indépendants américains et éthiopiens, qu'est Ailey Guérima. Et en fin d'émission, Charlotte Garçon rendra évidemment hommage à l'immense Frédéric Wiseman, dont la disparition lundi à l'âge vénérable de 96 ans a endeuillé toute la planète cinéphile. Mais pour l'heure, petit aperçu donc de Dao, avant de rencontrer ses auteurs et actrices.
Je m'appelle Gloria, j'ai 50 ans, j'ai une fille.
Pourquoi est-ce que tu veux te marier ? Dis-moi.
Bienvenue dans ton village.
Waouh, c'est une jacque. Jacque, peut-être un peu de timide, jacque, calente.
Un tableau de
timide.
Voilà.
On m'a lu là.
Elle est trop contente.
Pas sinon, d'abord, mais on doit le connaître. Maman Paréol, on a un décoronia.
Bonjour Alain Gomis.
Bonjour.
Bonjour Cathy Correa.
Bonjour.
Et bonjour Joey Cuadio.
Bonjour.
Alors d'habitude, on fait les interviews avec le réalisateur du film. Vous, Alain Gomis, vous avez tenu à ce qu'on fasse cette interview avec vos interprètes principales. Est-ce que c'est une manière de dire que plus que jamais, d'ailleurs, avec ce film, le cinéma, c'est une affaire collective ?
Ah oui, absolument. Ça aurait été un film très différent si ça avait été d'autres personnes, puisque voilà, c'était un peu tout ça une coécriture. Elles sont intervenues beaucoup sur leur rôle. En fait, j'ai laissé les portes ouvertes, donc elles ont des choses plus intéressantes que moi à dire. En fait.
C'est-à-dire, comment ça vous a été présenté, ce projet, au départ, Cathy Correa ?
Alors, au départ, c'était un projet qu'Alain a laissé mûrir pendant très, très, très longtemps. Et de temps en temps, il nous envoyait des pistes. Ça s'est fait en l'espace d'une dizaine d'années, je pense, au moins. Ça s'est fait un peu comme un puzzle. Et puis, ce puzzle a grossi lors des castings, tout d'abord. Et puis, il a laissé prendre cette dynamique. Il a fait sa cuisine dans son coin au départ. Et puis ensuite, il nous a laissé un peu mijoter. Et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître avant le film.
Joé, ça faisait 10 ans aussi qu'ils vous en ont parlé ou vous êtes arrivé au moment du casting ?
Non, moi j'ai appris l'existence de ce projet, je dirais 3 mois avant le début du tournage. Au début, enfin plutôt par une approche classique, c'est-à-dire c'est une directrice de casting qui m'a contactée. Mais assez vite, je me suis rendu compte que ça allait pas être un casting classique d'abord parce que il y avait rien à préparer pour ce casting à part venir. Et être prête à discuter et à échanger avec la directrice de casting et Alain. Et en fait, c'était une vraie rencontre. On a passé 1 à 2 heures à discuter des thématiques qui allaient être abordées dans le film. Donc la question de la transmission, de l'héritage, de l'immigration, mais aussi les questions d'amour, d'engagement, du mariage, ce que ça représente comme institution. Et progressivement, pendant le processus de casting, on est allé vers le personnage de Nour que j'interprète tranquillement. Et puis après, il y a eu des étapes aussi de rencontres avec les autres personnages, à la fois des potentiels acteurs qui allaient jouer mon futur mari, mon fiancé, et puis aussi des mamans potentielles, donc Cathy. Et pareil, c'était toujours des longs processus, des vraies rencontres, des longs moments d'échange, de discussion, sans vraiment de texte, sans vraiment de script à apprendre par cœur, ce qui est hyper privilégié, je pense, pour un acteur ou une actrice en devenir. Parce que du coup, on a de l'espace pour improviser, on a de l'espace pour écrire au plateau. C'est hyper précieux.
Ce qui est très beau, c'est que tout ce que vous racontez, on le voit dans le film. C'est-à-dire que vous incluez, Alain Gomis, les moments de casting. On voit naître à la fois une comédienne, on voit naître des personnages, et tout d'un coup, sans qu'on s'en rende compte, on passe dans la fiction. Pourquoi est-ce que vous avez voulu montrer un peu les ficelles, les coutures du film, ce qui normalement devrait nous mettre en dehors, et qui, au contraire, nous met encore plus en dedans ?
Mais parce qu'il aurait pu être vous. Voilà, c'est une façon d'inclure aussi le spectateur dans cette aventure, dans cette expérience et dans ce plaisir que je trouve qu'il y a vraiment dans la fiction de pouvoir explorer des choses qu'on ne pourrait pas forcément explorer dans la vie. Voilà, quand un père et un fils, par exemple, parfois il y a eu des vrais pères avec leurs vrais... Et on peut se dire des choses qu'en utilisant le système, en fait, qu'ils n'auraient pas pu échanger. Donc j'aime ça vraiment dans la fiction, cette façon de pouvoir... On peut se lancer dans quelque chose avec une sorte de protection, parce que ce n'est pas la vie réelle, et qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans nos rapports. Ouais.
Et il y a aussi une question de décalage de regard, puisque ce film, je crois, a été inspiré par la propre commémoration de votre père dans votre village d'origine, en Guinée-Bissau. Pourquoi est-ce que, comme Félicité d'ailleurs, tout d'un coup, le regard se déplace et devient un regard féminin ?
Alors ça, je ne saurais pas dire. Au départ des films, ils viennent avec effectivement un personnage ou des personnages principaux. Il se trouve que là, c'était une femme. Et je sais juste dire qu'ensuite, moi, ça me permet de vivre les choses de façon nouvelle, étrangère, que j'aime bien avoir cette position de ne pas tout savoir et au contraire de découvrir le film au fur et à mesure et d'apprendre, quoi. Tout à coup, la cérémonie, bah oui, je la vis depuis un point de vue que je connais pas et qui ça m'intéresse beaucoup.
Cathy Correa, est-ce que vous aviez l'impression, d'une façon ou d'une autre, de jouer le rôle d'Alain Gomis, mais finalement, c'était vous qui alliez apporter votre regard à vous ?
Personnellement, je l'ai très vite compris, très très vite. D'ailleurs, il a prononcé une phrase à un moment donné qui a fait un espèce de déclic chez moi. Et je me suis dit, je comprends qu'il ait besoin d'un œil extérieur pour vivre ça et non pas le revivre. Même si par moments, il y a eu des sensations, des échanges entre nous, on s'est regardé, on s'est compris. Voilà, on savait que pourquoi nous étions là. Et puis moi, c'est particulier parce que c'est mon oncle. Donc... j'ai l'impression que ça vous fait rire. C'est mon oncle, donc on avait cette proximité, cette sensibilité. On était par moments à fleur de peau, parce qu'on savait de quoi on parlait, on savait ce qu'on faisait. Et on a bien sûr tous droit à l'erreur, mais on avait envie de donner le meilleur de nous-mêmes pour nous accompagner dans cette aventure, je crois.
Mmh. Ben ouais, c'était d'ailleurs un des trucs très spécial de la projection d'hier. Parce que quand vous vous asseyez là sur cette tombe et que vous parlez à ce monsieur qui est ton père, c'est la tombe de mon père en fait.
Ça ne pouvait pas être. Voilà la raison pour laquelle ça. Je n'avais pas vu le film avant, donc c'était particulier.
C'est vrai que ce film tient du film de famille. Quand on regarde le générique de fin, on ne compte plus les gomis qui sont au générique. Vous, Joey Coadio, vous arrivez, vous êtes la petite nouvelle dans la famille. Alors comment est-ce qu'on se retrouve dans cette famille, qui est aussi une famille de cinéma, puisqu'on retrouve des Samir Ghesmi et autres qu'on avait déjà vus chez vous. Comment est-ce qu'on entre dans une famille comme ça ?
Je suis rentrée dans deux familles par une porte hyper particulière. Donc, moi, c'est le premier long métrage dans lequel j'ai tourné. Donc, il y avait. Enfin, c'est vraiment l'idée que la forme et le fond se sont un peu confondus, mélangés. Et je crois que c'est un peu le point général du film. J'avais à la fois une appréhension liée à mes premières scènes, mes premiers tournages, découvrir une mécanique, tout un univers, toute cette entreprise que représente le cinéma. Et par ailleurs, il y avait cette famille à laquelle je devais m'intégrer. Et en même temps, le film parle, et le personnage de Nour exprime exactement cette position-là, c'est-à-dire cette position un peu extérieure, comment on se sent des fois étranger à sa propre famille, parce qu'on n'en connaît pas les codes, la culture, la langue. Et ça, pour le coup, moi, c'est quelque chose qui me parle de par mon parcours, mes origines, où ça m'est arrivé de me sentir un peu en décalage comme ça. Je pense que c'est le lot de pas mal d'enfants, de parents qui ont fait le choix de mettre de la distance avec leur pays d'origine, leur famille, etc. Et donc, du coup, ça nourrissait énormément mes émotions pendant tout le tournage, parce qu'il y avait plein de moments où j'avais ce décalage-là. Mais là, je suis assez contente parce qu'au final, les rares retours que j'ai eus pour l'instant, on parle de mon personnage comme une espèce de passeur, de porte d'entrée pour le spectateur aussi, d'arriver par le regard de Nour dans cette famille, avec un peu, des fois, cet air ébahi, le silence aussi de mon personnage qui n'a pas grand-chose à dire, qui a beaucoup à recevoir. Et je pense que quand on fait du théâtre, quand on apprend à jouer, on a l'impression qu'on doit faire beaucoup de choses, alors que souvent, on doit surtout écouter avant tout. Et donc, c'est une leçon de cinéma formidable.
C'est pas pour rien que votre personnage s'appelle Nour. J'imagine que la lumière qu'elle apporte dans le film était pensée comme ça dans son prénom. C'est un film qui fonctionne beaucoup sur le rituel, sur la cérémonie, et qui va monter en parallèle deux types de cérémonies. Qu'est-ce qui vous intéresse, Alain Gomis, dans tous ces gestes qu'on voit dans le film, parce qu'il y a quelque chose de très cinégénique dans tout ce qui est ritualisé.
Ouais, ce sont des moments dans lesquels on se dit ce qu'on garde, ce qu'on met de côté, qu'il y a quelque chose dans la tradition pour moi qui est que la tradition c'est au présent, que c'est ce qu'on en fait maintenant, et que l'unique question au mariage qu'on a dû traverser ensemble, c'est quel type de mariage, comme tout marié. Comment on se représente ? Il y a un truc symbolique de société, de communauté qui se met en place. On inscrit quelque chose à transgénérationnel. Et c'est évidemment aussi vrai en Guinée-Bissau. On a souvent l'impression que la tradition africaine, c'est un truc qui ne bouge pas. Non, non, c'est un truc d'une grande modernité aussi. Donc, il y a les parties discothèques de la tradition. et que y a des discussions à ne plus finir sur on va faire ceci et pas cela, etc. Donc ce mouvement-là de se réinventer, de réinventer son passé, de réinventer la tradition, me paraît extrêmement important et moteur de ce qu'on a envie d'être.
Ce sont des personnes qui se demandent comment on va se représenter. Et le festival a commencé comme d'habitude à Berlin par des grands débats politiques. Est-ce que le cinéma doit être politique ou pas ? Pour Wim Wenders, apparemment, ce n'est pas le cas. Mais il y a quelque chose de très politique dans votre film qui ne s'affiche pas comme tel. C'est-à-dire que le film est riche de tout ce hors-champ d'histoire, de migration, de guerre, de colonisation, mais qui ne va pas s'afficher comme tel et qui pourtant informe les personnages et ce qu'ils vivent en permanence.
Oui, parce que n'y a pas de message caché. Tout est dit. On parle de la relation qu'on peut avoir avec ses proches, que ce soit les époux, les enfants, la famille, les anciens, la vie et la mort. C'est des sujets d'actualité. On a d'ailleurs, c'est vrai qu'on parle pas, peut-être pas de politique, mais on comprend très bien que la condition de la femme a été, elle est et elle sera. Donc c'est quand même une culture qui bouge. On a souvent tendance à penser que l'Afrique est figée, que les femmes... Moi, on me dit, ben, comment il y a des toilettes? Je dis, ben non, on arrive en pirogue quand on voyage. Et puis, non, mais c'est des questions encore récurrentes. C'est pas possible, on est au 21e siècle. C'est pas normal. Le monde bouge et l'Afrique bouge, contrairement à ce qu'on pense.
Ouais, et le cinéma est très politique. Et la grammaire du cinéma est très politique. Donc, je pense que le fait de laisser parler les gens de façon directe et de montrer aussi le processus du film... C'était ça un peu l'acte politique du film. Et ensuite, effectivement, sont abordées des questions qui rentrent dans cette famille, qui sont des questions de ces populations qui ont bougé, et on ne sait pas toujours pourquoi. Moi-même, j'ai découvert dans ce film, en faisant ce film, par exemple, donc il y a mon grand-cousin qui raconte le décès de son père, qui est mon oncle. Il raconte comment il est mort parce qu'il a été livré des armes pour le PAIGC, donc qui était parti de libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. En sautant sur une mine, en voulant sauver un de ses neveux. Et il ne l'avait jamais raconté à ses propres enfants, c'est ce qu'il dit. Donc il y a cette chose de la perte d'histoires traumatiques qui ne sont pas forcément transmises et qui manquent aux générations suivantes pour réussir à se constituer. Donc il y a le fait de pouvoir dire. Il y avait des choses vraiment... Il y a un moment donné, les choses, il faut qu'elles soient dites aussi, d'une certaine façon, quoi. Mais il y a ce manque à l'intérieur des familles, et de toute famille. Bon, là, il se trouve que c'est des familles africaines. Mais dans toute famille, il y a ces espèces de trous qui parfois nous empêchent d'aller vers l'avant de façon consciente.
Pour revenir à la question du rituel, de la cérémonie, il n'y a rien de plus ritualisé en général qu'un tournage de cinéma. On va demander le silence, on va lancer la caméra, on va dire action. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais on a vraiment le sentiment, avec cette manière de filmer presque documentaire tout ce qui se passe, que jamais vous n'avez dit ça. C'est comme si il y avait eu une journée entière, effectivement, de mariage, par exemple, et puis de temps en temps, vous tourniez, mais vous préveniez personne. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé?
Typiquement, moi, je me préparais à certains codes sans même les avoir jamais expérimentés. Mais bon, voilà, c'est un peu ce qu'on apprend à l'école. Et puis, moi, je suis plutôt team bon élève. Donc, j'arrive vraiment sur le tournage en connaissant mon texte, en ayant préparé la scène la veille, en relisant, etc. Puis en fait, très vite, j'ai compris que... Alors, c'est un peu désarçonnant parce que, donc, en effet, le mot « action » est prononcé à très faible intensité ou pas prononcée. Donc en fait, des fois, ça tourne, t'es pas vraiment au courant. Donc ça peut désarçonner si on n'a pas envie, en fait, d'écrire. Et moi, j'ai l'impression que du coup, j'ai compris au fur et à mesure de l'avancée du tournage que, là, et même déjà, en vrai, dès les moments de casting, que Alain propose à tout le monde, et en fait c'est un film choral qui traverse les histoires d'un peu tout le monde, propose à chacun d'écrire un petit bout de cette histoire. Donc c'est la liberté. En effet, il y a un ressenti documentaire certainement pour le spectateur, mais je dirais que c'est plus intéressant que ça encore, c'est un espace de création de fiction pour tout le monde. Et donc c'est pas seulement le metteur en scène qui nous met des mots dans la bouche, mais au contraire, il nous dit... Toi, tu le penserais comment? Tu le dirais comment? Et ce rituel de cinéma dont vous parlez, et le rituel du mariage, le rituel de la cérémonie, c'est aussi comment est-ce que vous avez envie de raconter cette cérémonie, pas uniquement comment est-ce que vous pensez qu'on veut la voir. Et donc, en fait, ça remet les interprètes, je trouve, ça redonne de la gentillité à un interprète, et je trouve que c'est hyper privilégié, encore une fois... parce que ça fait de nous tous des artistes, ça fait des techniciens, que ce soit à la lumière, au son, ou des acteurs, des créateurs. Enfin, c'est hyper inspirant comme manière de fonctionner et de proposer de faire du cinéma.
Alain Gomis ?
Oui, on aurait pu avoir avec nous Céline Bozon, la chef opératrice du film, cadreuse, qui fait un travail extraordinaire, et qui effectivement, ça peut marcher qu'avec une équipe qui accepte de sortir de cette espèce de confort, mais qui contraint beaucoup les acteurs. C'est-à-dire, quand on commence à faire silence, déjà, on casse totalement... tout s'arrête, et après, il faut repartir. Donc en évitant de faire ça, effectivement, il n'y a pas cette coupure entre la vie et le tournage. Et ça leur demande à eux de s'adapter à ce qui se passe, que la lumière, elle soit pas effectivement... On va pas demander à quelqu'un de faire un pas en arrière pour prendre un peu mieux la lumière, ou de répéter plus fort, etc. Donc c'est aux techniciens d'être très très bons et de s'adapter. Et ils étaient très très bons. Donc ça a permis... Par exemple, il y avait le Perchman, Franck Carteau, qui est... Mais j'ai jamais vu un Perchman aussi bon que ça, c'est-à-dire que... Le gars, il danse, quoi. C'est-à-dire, il est là, on le voit pas. C'est très difficile au son, encore plus difficile qu'à l'image, très difficile au son d'être là, de réussir à être là et de timbrer les voix alors qu'on sait pas où ça va partir, qui va parler, et qu'ils sont 150 sur le plateau. Et voilà, ils ont été très, très bons.
La dernière fois qu'on s'était vu, Alain Gomis, c'était pour parler Thelonious Monk, pour votre film Rewind and Play. J'ai eu ce sentiment de jazz très fort dans le film, pas seulement parce qu'on entend Abdullah et Ibrahim en particulier, voilà, qui fait un peu le leitmotiv du film. Là, vous avez un big band, un sacré big band. Quand vous avez monté le film, est-ce que vous avez pensé à cette musicalité, justement, presque jazz, complètement jazz même de votre film?
Ben ouais. Parce que un des trucs que j'aime beaucoup dans le jazz, effectivement, c'est le fait d'improviser en étant ensemble. Donc d'écouter, tu aurais parlé d'écoute, et de s'écouter, de s'adapter, de se... Les personnages se sont trouvés aussi comme ça, c'est des forces. Donc on fait pas deux fois la même force dans un groupe, parce que sinon ça s'annule. Donc comment on se met avec l'autre, en face, à côté, en soutien, en opposition, etc. Ça a été sans cesse ça. Et le montage aussi, forcément, c'était ça aussi.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alain Gomis sortira en France le 29 avril. On aura l'occasion sans doute d'en reparler sur France Culture, dans Plan Large ou ailleurs. Et on saura ce soir si le film n'a pas été trop politique pour être retenu dans leur palmarès par Wim Wenders et son jury. Des cérémonies, il y en a aussi beaucoup dans le nouveau film de Jan Zobermann. Des circoncisions, des bar mitzvahs, des mariages. Autant de films de famille sur lesquels la cinéaste des zones d'ombre de la société israélienne, avec sa trilogie Will You Have Sex with an Arab, et la belle de Gaza, la réalisatrice aussi de ce film magnifique de 1993, Moi Yvan, toi Abraham, que nous avions reçu dans Plan Large le 13 décembre dernier pour sa ressortie en salle en version restaurée. Yolande Zobermann donc raconte des histoires, celles de sa famille de juifs polonais et de comment, de manière aussi improbable que miraculeuse, ils ont tous survécu à la Shoah, et puis des histoires juives, de ces blagues absurdes et métaphysiques qui font la mélancomique beauté de la culture yiddish. Le film est court, il fait une trentaine de minutes. Il a été présenté dans la section Berlinale Shorts. Il n'en est pas moins très riche, comme son titre, Les Juifs Riches, un titre évidemment rien provocateur en ces temps où les pires préjugés antisémites connaissent une nouvelle fortune, que sa première ait eu lieu à Berlin, où s'est décidée l'entreprise de destruction à laquelle a échappé sa famille, n'avait évidemment rien d'anodin. C'est la veille de sa projection que nous avons rencontré Yolande Zobermann.
Elle, c'est ma mère, Marie, femme de Joseph. C'est pas une blague. Enfant, Marie et Joseph habitaient dans la même rue, à Lublin. Là, c'est le mariage de mon frère. Ma grand-mère venait de mourir. Pendant la guerre, ma mère a été sauvée tout le temps. Elle pense que c'est parce qu'elle n'a jamais été séparée de sa mère. Elle me racontait ses histoires par bribes, désordonnées, Ses yeux bleus et son visage rayonnaient. Ma sœur croyait qu'elle mentait, qu'elle transformait l'horreur en sublime. Je savais plus qu'y croire. Je n'osais pas questionner ma mère. J'avais peur qu'elle s'écroule.
Bonjour, Yolande Zobermann.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que vous avez attendu maintenant pour raconter aussi directement cette histoire en film? Parce que il me semble que vous en parliez déjà. J'ai trouvé un entretien en 2012 avec Michel Butel où vous racontiez quasiment dans les mêmes termes l'histoire qu'on entend et qu'on voit raconter ici.
En fait, ça fait longtemps que j'ai cette idée et le Frénois auquel j'étais associée l'année dernière m'a donné un budget de film expérimental et donc je me suis dit « Ok, j'y vais ». Et en fait, cette idée, elle vient de... Un jour, il y a très longtemps, j'étais avec mes cousins, ce qui est très rare, et tout le monde avait apporté des films de famille et on regardait des films de mariage, de bar mitzvah. Et tout d'un coup, je regardais ces gens qui étaient là, qui étaient les gens de mon enfance, et qui avaient quelquefois des visages durs, quelquefois des lunettes noires, quelquefois des... Et je me disais, mais c'était pas facile d'être les enfants de ces gens. Il y a quelque chose qui ne s'est jamais raconté. Et moi, quand j'étais enfant, j'étais assez autiste, et je ne parlais quasiment pas, et de temps en temps, il y avait des gens que je voyais. Et ces gens-là, d'abord, je pouvais les regarder très longtemps, et après, j'ai appris leur histoire. Et les histoires que je raconte dans ce film, il y en a certaines, effectivement, que j'avais racontées à Michel Butel dans cet entretien. Et d'ailleurs, on me demande depuis régulièrement un livre qui part de là. C'est des histoires dont j'ai le sentiment que si je ne les racontais pas, elles disparaîtraient. Et les raconter sur des images aussi joyeuses et aussi... Essentiel, moi, il y a des images où tout d'un coup, j'avais l'impression d'être dans du Scorsese, quoi. Et voilà, et j'adorais ça, ce mélange de ton et de genre. Et en fait, je me disais, je ne pensais pas au départ faire un film si proche de moi. Je pensais faire un film plus sur des choses que j'ai vues, mais ces films qu'on voit dans le film, c'est des films qui sont venus presque tout seuls vers moi. Donc, je pense peut-être en faire un long métrage, et là, ça va se développer autrement. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je parle de moi à ce point. Et quand on l'a fini, je me suis dit, j'ai l'impression que pour le spectateur devient presque juif en le voyant, ce film. Et en tout cas, il devient presque moi. Et avec tout ce que ça veut dire, les trous et en même temps les blagues, en même temps, voilà.
D'autant qu'avec ces cérémonies, ces rituels que vous montrez, on a quasiment toute la vie d'un juif. Ça commence par une circoncision, il va y avoir la bar mitzvah, il va y avoir le mariage. Or, ce que vous racontez derrière, ce sont des histoires de survie. Donc, il fallait raconter à la fois la vie et la survie.
Vous savez, quand on porte un toast, chez les juifs, on dit le chaim, ça veut dire pour les vies. Et ce qui, pour moi, était aussi très important, c'est-à-dire que clairement... L'origine des histoires des gens que je raconte est terrible, mais il y a une espèce de foi en la vie. En fait, c'est comme s'ils étaient sortis de la guerre avec une petite flamme, qu'ils étaient les derniers à porter, et qu'il fallait que cette flamme irradie tous les gens autour d'eux. Et du coup, j'avais l'impression, puisque j'appelle quand même ce film « Les Juifs riches », alors, les gens qui sont dans ce film, ils sont riches, mais pas très riches. C'est pas des gens qui ont des yachts. Mais voilà, et je me disais, ça casse le cliché aussi. C'est une façon de passer par le cliché pour entrer dans une autre histoire. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait, en ce moment, dire juif, c'est presque imprononçable. Et entre moi, Yvan, toi, Abraham, qui est ressorti récemment... Et les juifs riches, il y a comme une façon de pouvoir le dire, justement. En fait, moi, j'ai toujours l'impression que je surfe sur la crête, comme ça, du monde, en fait, de ce qui se passe dans le monde.
Justement, on en avait parlé ensemble récemment, dans Plan Large, de la réédition, de la ressortie de « Moi, Yvan, toi, Abraham ». Et c'est donc d'autant plus émouvant de le retrouver dans ce film-là. Le film se termine là-dessus. Il y a eu aussi déjà Hélène Lapiovert qu'on voyait chanter. Est-ce que c'était une façon de dire que moi, Yvan, toi, Abraham, était aussi riche de ces histoires-là, même si vous ne le disiez pas à l'époque?
Oui, mais vous savez, c'est plus organique que ça. C'est-à-dire que j'avais cette scène coupée qu'on voit au début sur mon desktop. J'avais filmé cette scène avec mon téléphone et j'avais ça sur mon desktop et tout d'un coup je l'ai sorti, je me suis dit ce serait vraiment bien pour le début du film. Et en fait, moi, j'agis de manière extrêmement instinctive et physique. Ma façon de faire du cinéma, c'est une façon physique de faire du cinéma. Et là, bon, c'est la première fois où je passe par des images d'archives, mais en même temps, ces images d'archives, pour moi, c'est tellement déjà du cinéma, parce que c'est des films que les gens faisaient en 16, et c'est beau. Donc oui, donc, c'est vrai que moi, Yvan, c'est l'origine de beaucoup de choses pour moi. Mais ce n'est pas la seule origine.
Chacune de ces histoires prises séparément ferait un film incroyable. Peut-être même qu'on n'oserait pas le faire en disant « mais c'est pas possible, tout ce qui s'est passé », parce qu'à chaque fois, ça tient du miracle. Ça tient de circonstances vraiment improbables. Alors, ces histoires qu'on vous a racontées par bribes, j'imagine, dans votre enfance, est-ce que vous les voyez, vous, à l'époque, comme des contes, comme des histoires impossibles, et comme peut-être des histoires inventées À quel moment vous avez dit « mais ces histoires, vraiment, c'est arrivé ?»
Je les ai toutes crues, puis tout d'un coup, je les ai plus crues parce que ma sœur me disait « mais non, mais c'est l'horreur transformée en sublime ». Et après, je les ai de nouveau crues. Je voulais demander en fait à Klaus Landsman, par exemple, de filmer ma mère, parce que c'était quand même le plus grand enquêteur du monde, et pour justement savoir. Et puis, moi, je vis avec quelqu'un qui s'appelle Selim Nassib, qui était journaliste et maintenant écrivain. Et donc, je lui ai dit, viens avec moi un soir, parce qu'en plus, je n'osais pas questionner ma mère. Parce qu'au cas où ça aurait été faux, je voulais pas qu'elle s'écroule. Et donc, comme je raconte dans le film, j'ai trouvé une question simple. Et à partir de cette question simple, tout s'est déroulé. Et c'était les mêmes histoires. Et mon père, pour une fois, disait, mais oui, tout ça, c'est vrai. Et puis, voilà, il y a d'autres histoires que je raconte pas. Quand j'étais petite, par exemple, j'ai ouvert un livre et j'ai trouvé des photos de corps calcinés qu'on sortait d'un four. J'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. J'ai refermé le livre et puis c'est tout. Quand j'ai compris que ma mère n'avait pas fait les camps, justement après cette nuit-là, en fait, hein, on est dans la cuisine, on a questionné, j'ai appelé mon frère, qui est beaucoup plus traditionnel que moi, et je lui ai dit « Léo, Léo, assieds-toi, maman n'a pas fait les camps ». Il me dit « bien sûr ». Je dis « quoi ? Ben, bien sûr ». Il me dit « mais tu te rappelles des photos là que… » Je disais, oui, je les ai trouvés. Il m'a dit, on les a tous trouvés un jour ou l'autre. Quelqu'un qui a fait les camps n'aurait jamais pu toucher ces photos. Ce que j'ai trouvé d'un bon sens extraordinaire. Et il m'a dit aussi que la photo de l'enfant, qui est connue internationalement, de l'enfant du ghetto qui lève avec la casquette et qui lève les mains, c'est elle aussi qui l'avait achetée dans ce lot-là et qui l'a donnée à un journaliste qui l'a diffusée dans le monde entier. Donc je ne savais pas que ma mère était à l'origine de ça. Chez nous, le non-dit, dans cette famille, il était miraculeux. Et je pense que presque tous les gens qui ont survécu grâce à un miracle. Et des miracles, vous savez, j'ai lu un livre sur des SDF. En fait, il y a quelqu'un qui avait été résistant pendant la guerre et qui n'arrivait pas à se sédentariser. Et qui a été vivre avec les gens qui vivaient dans la rue. Et il était ami avec Doineau. Et Doineau a fait un livre de photos et lui a fait les textes. Et il disait dans ce livre que s'il n'y avait pas tous les jours des miracles, tous les SDF seraient morts. Donc des miracles, il y en a. Juste, peut-être, ce qu'il y a de plus extraordinaire dans l'histoire de ma mère, par exemple, c'est ce que m'a dit une amie psychanalyste, c'est qu'elle a accepté les miracles. Et que la plupart du temps, on ne les accepte pas, les miracles. On ne les accepte pas quand ils viennent vers nous. Et ça, c'est aussi une chose extraordinaire. Je trouve que ça pousse à vivre, et moi, de ce film, d'une certaine manière, je le dédie à tous les gens qui veulent cultiver cette force de vie, qui veulent cultiver cette lumière. Et avec tout le monde, avec toutes les religions, toutes les couleurs de peau, toutes les nationalités. Je veux dire, c'est ça, c'est cette force de vie extraordinaire et à laquelle j'ai cru, puis plus cru, puis de nouveau cru.
Il y a les non-dits, il y a aussi les manques, les oublis. Vous le racontez souvent dans le film. Il y a cette grand-mère dont vous êtes le portrait craché, mais vous n'avez pas de photo d'elle. Il y a cet oncle ou ce cousin dont vous avez oublié le nom ou le visage. Alors, une des questions aussi que pose ce film, c'est comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas quelque chose, une image, pour montrer ce qu'on raconte ?
Alors, la question que vous me posez, ça me fait penser à une histoire chassidique. Le chassidisme, donc, c'est ce mouvement comme ça, de révolutionnaire. En fait, ils disent, qu'est-ce que font des chassidimes quand ils n'ont plus de vodka? Eh bien, ils parlent de vodka. Eh bien, moi, c'est ce que je fais. Quand j'ai, En fait, vous savez, par exemple, dans ma famille, je suis un peu à part. Et un jour, ma mère m'a dit, mais tout le monde t'en voulait parce que t'as tourné le dos quand le rabbin parlait et tout ça. Et je disais, mais arrêtez, vous devriez me plaindre. Je suis toute seule. S'il y avait eu tous les gens de la famille, il y aurait eu d'autres comme moi. Ils étaient d'une famille de 600 personnes, ils sont revenus, il n'y avait plus personne. Donc, c'est vrai que tout d'un coup, il y a cette solitude. Et encore, dans ma famille, c'est extraordinaire parce que il faut quand même savoir qu'en Pologne, il y a 90% des Juifs qui ont été tués. C'est énorme. Et ma mère, ses deux frères, sa mère, et si mon grand-père ne s'était pas rendu, ont tous survécu. Quelle force! Et moi qui croyais que en fait, personne ne pouvait protéger personne en découvrant leur histoire petite, eh ben, je me trompais. Il y a quelque chose qui peut protéger quand même. C'est l'amour ou c'est une lumière. Il y a quelque chose.
Merci beaucoup.
Steht sich dort im Gesäle, still vertragt der Häusele, drinnen in dem Beut im Stiebel wohnt mein Teier Reisele. Jeden Abend fahr ihr Heisel, dreich sich herum, gib a Pfeif und ruf eus Reisel, komm, komm, komm. Ebnt sich am Fenster, wacht aufs Zelt der Heisele, sing und knack mir Wissale, hör ich auf den Treppler springen, ihre trockene Wissale. Schön Aru vom letzten Treppler, nehm sie lieb Aru, gib ihr still a Kuss im Kettel, komm, komm, komm. Du bist doch mein Feier, lieb ein Seidet Reisele, lieb deine Mama, lieb das Gessel, lieb das alte Heisele. Lieb die steinlich leben Heisel, trittst auf sei Aru. Hätt dein Mama ruft schon Reisel, komm, komm, komm. Geh ich mir ab Reinech her, sing und knack mir Missalech, hör ich auf die Trepplech laufen ihre trockene Fiesale. Wieder steht vertracht das Meisel, das Gessel wieder stumm. Komm zu mir in Ulime Reisel, komm, komm.
Les Juifs riches de Yolande Zobermann, c'est un work in progress, une version longue est en cours d'élaboration, on aura donc l'occasion, sans doute là encore, d'y revenir. Vous écoutez France Culture, Plan Large, et après Alain Gomis, c'est encore un cinéaste africain que nous avons eu la chance de rencontrer à Berlin, le grand Haile Gerima, une figure légendaire du cinéma éthiopien, il a bientôt 80 ans. On le connaît aussi, quand il était parti à la fin des années 60, étudier à l'Université de Californie, comme un des membres fondateurs, aux côtés notamment de Charles Burnett, de la LA Rebellion, ce groupe de jeunes cinéastes africains et afro-américains qui avaient exploré, en alternative au cinéma hollywoodien, de nouvelles voies narratives et visuelles pour représenter la réalité des Noirs aux États-Unis. C'est riche de cette expérience qu'il est retourné dans les années 70 dans son pays d'origine pour le raconter sans phare et s'intéresser notamment à son histoire, d'autant peu connue qu'elle a longtemps été racontée et déformée par un prisme occidental, celui des puissances qui ont tout eu des vues sur le seul pays d'Afrique à être toujours resté indépendant. Après avoir en 1999 consacré avec Adwa une victoire africaine, un documentaire déjà à la défaite cinglante infligée aux Italiens en 1896, défaite qui avait préservé l'indépendance de l'Éthiopie, il a présenté cette année à Berlin dans la section Forum une sidérante fresque de près de 10 heures, Black Lions, Roman Wolves, qui raconte la seconde invasion italienne, celle qui avait vu les troupes fascistes de Mussolini, enchaîné de 1935 à 1941 les pires massacres et crimes de guerre, des crimes de guerre toujours restés impunis, pour tenter de soumettre un peuple qui allait malgré tout les vaincre à nouveau. Tressant habilement témoignages des derniers témoins de cette époque et récits d'historiens exclusivement éthiopiens, avec les images d'archives tournées par les envahisseurs mais recadrées et remontées pour contrer le narratif colonial, le film prend la forme d'une longue mélopée à la fois épique et méditative. Nous avons pu en en discuter brièvement avec son auteur, Haile Gerima. Bonjour Haile Gerima.
Comment ça va?
Très bien, merci à vous. Je crois que ça fait 30 ans que vous travaillez sur ce film. Qu'est-ce qui a déclenché le besoin de faire ce film? Quand est-ce que vous avez compris qu'il fallait enregistrer ces témoins, notamment, avant qu'ils ne disparaissent?
Tout d'abord, il y a ce fait historique dont on me parlait comme d'une légende, la bataille d'Adwa. Je voulais faire un film sur notre gloire, sur l'Éthiopie triomphante, etc. Mais je n'avais jamais vraiment mesuré l'ampleur des tenants et aboutissants de ces événements. Donc, j'avais ce projet en tête, mais je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose sur le sujet. Et en voulant parler d'Adwa, le spectre de l'Italie fasciste de Mussolini de 1935 revenait sans arrêt. Il se trouve qu'au moment du tournage, les Éthiopiens qui ont combattu les armées fascistes italiennes étaient encore vivants. Donc j'ai voulu les rencontrer pour les interroger sur Adwa, et c'est là que Adwa s'est mis à faire écho à l'Italie de 1935. C'est donc devenu une sorte d'histoire à deux têtes. Mais comme je n'étais pas au point intellectuellement ni historiquement pour évoquer les deux sujets de front, je me suis concentré sur Adwa, avec l'intention de faire un deuxième volet plus tard qui s'appellerait « Les enfants d'Adwa ». J'étais comme un étudiant qui apprenait à mesure que les films se faisaient sur ce pan enfoui de l'histoire. Tout me poussait toujours plus loin dans ce tunnel insaisissable dont j'essayais de suivre la progression logique. Et s'ajoute à ça la dimension culturelle de ces événements, qui est liée à la spiritualité des faits et qui est liée à leur folklore. C'est à partir de ces éléments que le projet a évolué et a commencé à prendre forme.
Il y a plusieurs éléments dans ce film. Il y a ces témoignages des survivants que vous avez filmés. Il y a des historiens qui parlent. Et puis, il y a les archives. Le problème des archives, c'est qu'elles ont été produites par les Italiens. Comment est-ce que vous avez trouvé moyen de changer le point de vue de ces images, qui sont un point de vue colonial, pour vous les réapproprier?
C'est exactement l'enjeu. Toute la difficulté vient du fait que mes ancêtres, eux, n'avaient pas de caméra pour filmer leur côté. On a donc une vision déformée du point de vue des Italiens. À partir de ce constat, comment est-ce qu'on peut utiliser des images contaminées? Même en faisant le premier volet, Adwa, sur la victoire africaine, j'étais tiraillé entre la lecture proposée par les Éthiopiens et celle proposée par les Italiens. Je me suis aperçu que la guerre à l'œuvre était aussi une question de point de vue. J'ai fait de mon mieux dans le premier volet pour affronter ces angles morts. Ça a été très formateur sur cette question du point de vue. En me lançant dans le deuxième volet, je me suis rendu compte que dans ma manière d'utiliser ces images filmées par les fascistes, je les déformais comme si c'était moi qui les avais filmées. J'ai pris beaucoup de liberté, ce qui peut certes poser problème aux spectateurs. Mais je devais utiliser ces images pour combattre le contexte même ou l'état d'esprit même dans lequel elles avaient été créées. J'utilise donc ces plans pour aller contre leur intention originelle fasciste. Pour la plupart des cinéastes africains, quand on s'attelle à un projet sur le colonialisme, ou même sur le néocolonialisme, la question du point de vue devient un enjeu majeur dans nos films, puisque les archives ont été produites par les colons. Elles ne sont pas objectives, elles sont au contraire empreintes d'une subjectivité. Comment pouvons-nous nous emparer de ces archives et les utiliser au service de notre propos ? Dans mes films, les faits m'importent bien moins que la question du récit et de la dimension populaire des récits. Et ces images étaient justement produites dans ce sens. Et j'ai assemblé des images qui viennent de différentes sources, en juxtaposant par exemple un plan tourné par des Suédois et de la propagande mussolinienne. À chaque fois, je les utilise pour servir mon propos. Est-ce que ça marche totalement ? Ce n'est pas à moi de le dire, mais c'était en tout cas la méthode que j'ai suivie.
Votre film invente une forme, peut-être parce que cette histoire en Éthiopie a beaucoup été transmise par des chants, et votre film donne cette impression-là, d'être une longue mélopée.
Merci, je suis content que vous l'ayez relevé. J'évoquais mon intention d'aller au-delà des faits, pour valoriser l'audace du peuple éthiopien, leur façon de faire de la résistance un enjeu culturel, psychologique et social. Ça, c'est ce que j'ai appris en faisant ce film. Vous voyez, quand on est jeune, on veut établir des faits ou les rectifier. Mais j'ai abordé ce projet comme un étudiant, en me penchant sur ces événements. Et ce que j'ai appris de ma propre histoire m'a fait évoluer. J'ai des acquis sur la Révolution française, la Révolution russe, la Révolution chinoise, mais j'ai une connaissance limitée de ma propre culture. J'ai des carences éducatives. Et c'est dû au fait que Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie, a laissé les Anglais façonner notre système éducatif en suivant le modèle britannique, ce qui a créé beaucoup de problèmes pour ceux qui ont étudié après 1945.
Merci beaucoup.
Thank you very much.
አትርሽው ስቃይሽን ጠላት ሲሰቅለው በግብሩ ጣትሽን ባካፋ ሰነድሽን የመከራ ደወል ደም የተበከለ ከሮም ወርዶ መጥቶ አሰብ ተሰቀለ በቄስ በነጋዴ እየተደወለ ድምፁን አሳምሮ ስንቱን ሰው ገደለ ለጸሎት ሲመስለን የሚደውል ቄስ ለካስ ለመዝጋት ነው ያን ሁሉ መቅደስ
On espère ardemment qu'un distributeur courageux ou une chaîne de télévision aura la riche idée de diffuser en France Black Lions, Roman Wolves, Lion Noir et Loup Romain. Merci à Émile Bertera d'avoir traduit les propos d'Haïlé Guérima. Vous écoutez France Culture, plan large, de retour de la 76e Berlinale, une édition marquée aussi par la disparition de deux figures majeures du cinéma américain, l'acteur Robert Duvall et un cinéaste qu'on a beaucoup aimé et rencontré sur cette chaîne.
Oui, mais avant de manger, il est nécessaire de...
Préparer le dîner.
Préparer le dîner, ou préparer le déjeuner, ou préparer le petit...
Déjeuner.
Oui, mais en France, c'est différent. En Amérique, on mange généralement dans la cuisine. Mais en France, où est-ce qu'on mange le petit déjeuner? le déjeuner, le dîner, où, généralement, naturellement, il y a des exceptions. Mais en France, où est-ce qu'on mange?
Dans la salle à manger.
Exactement, dans la salle à manger. Chez nous, en Amérique, c'est différent. Mmh. On mange plutôt dans la cuisine. Oh, il y a des exceptions, naturellement. Mais généralement, dans la cuisine. Oui? En France, non. On prépare dans la cuisine, on mange dans la salle à manger.
Les lycéens de terminale qui découvrent High School dans le programme du bac, option cinéma audiovisuel, s'amusent sans doute de cette séquence de cours de français à la Northeast High School de Philadelphie. C'était en 1968. Mais ceux qui connaissent et qui aiment en profondeur l'œuvre immense de Frederick Wiseman y auront peut-être décelé a posteriori les prémices d'autres cuisines et salles à manger bien françaises, celles de son dernier et ultime film à présent, 55 ans plus tard. Menu plaisir, les trois gros. Il faut dire que l'affinité du cinéaste américain avec la France était profonde. Depuis qu'il y a 70 ans, en 1956, il était venu passer 2 ans à la Sorbonne et qu'il en avait profité pour assidûment fréquenter les salles parisiennes de cinéma comme de spectacle vivant. D'où peut-être encore cet aspect peu évoqué, je crois, dans les nombreux hommages qui ont fleuri depuis l'annonce lundi de sa disparition à 96 ans, de la grande comédie humaine qu'était son cinéma, qui tenait beaucoup aussi du théâtre de l'absurde beckettien, son intérêt pour les arts vivants, pour la scène, pour le spectacle, de la comédie musicale interprétée par les aliénés et les médecins de Titicut Follies, jusqu'aux danseurs et danseuses de l'American Ballet Theatre, de l'Opéra de Paris ou du Crazy Horse, en passant par la comédie française, et j'en oublie, Charlotte Garçon.
Oui, vous vous souvenez, Antoine, qu'au funérailles d'Ernst Lubitsch, alors que Billy Wilder soupirait « plus de Lubitsch », William Wilder lui répondit « pire que ça, plus de films de Lubitsch ». Frederick Wiseman disparu, qui aura la patience de rendre le monde intelligible, d'aller tourner avec la même attention dans une crèche comme à la Maison Blanche, dans une soupe populaire comme à la Cour suprême, je cite à dessein des lieux qu'il n'a pas filmés, mais qu'il aurait pu, son centenaire venant, ajouter à sa cartographie. Wiseman a cessé de vivre à peu près au moment où le service public cesse d'exister aux États-Unis. Dans Monrovia, Indiana, tourné en 2018, la bourgade du titre n'a pas encore voté aux élections présidentielles, mais à la sortie du film, elle se révèle bien sûr trumpiste à 76%. Dans ce petit village, tout semble au point mort, ordonné selon des traditions dont le sens est perdu, à l'inverse d'un autre village, Belfast, Maine, qui donne son nom à son documentaire Somme de 1999, où chaque activité de l'usine au conseil municipal semblait au contraire fourmiller de vie. Est-ce un hasard si dans cette petite ville, Wiseman filmait une activité chorégraphique, musicale, théâtrale, amateur, mais vivace, tandis qu'à Monrovia, le clergé, la franc-maçonnerie ou les employés de mairie semblent annonner des phrases toutes faites, des codes dévitalisés. Pour Wiseman, l'Amérique, c'est d'abord le pays où, quoi qu'il arrive, le spectacle doit continuer. Alors le spectacle vivant, il a fini par le filmer vraiment à partir de ballet en 1995, vous le disiez, sur l'American Ballet Theatre de New York. Mais si on voulait, pour une fois, à son égard, être biographiste, on irait chercher les racines de son goût du théâtre dans le fait que sa mère, qui avait voulu devenir actrice, mais qui dirigeait un centre de soins pour enfants à Boston, rentrait le soir et lui racontait sa journée quand il était petit en le faisant rire aux larmes par ses imitations. Elle m'a présenté, entre guillemets, dit-il, des antiquaires, des bijoutiers, des conducteurs de tram, des laveurs de vitres, des vendeurs de voitures d'occasion, des secrétaires, des agents immobiliers, des traiteurs, des épiciers, des bouchers, des éleveurs de poulets, des petites bourgeoises désabusées. On a l'impression là d'entendre une énumération des futurs sujets documentaires de Wiseman. Mais vous avez raison de souligner que son lien à la France explique sans doute pourquoi, au fond, c'est quand il revient à Paris, 40 ans après son séjour de jeunesse, qu'il filme littéralement le théâtre dans son 29e documentaire, La Comédie française ou L'amour joué. Pour la première fois en 1996, il introduit dans un film de longs pans de pièces jouées sur scène au risque de dérouter le spectateur qui cherche la déconstruction de l'institution, alors que le cinéaste leur fait partager son amour de l'art, hein, comme il le fera dès lors pour la danse à l'Opéra de Paris ou les tableaux de la National Gallery. Il y a là un risque perdre en oblicité, se calquer frontalement sur la représentation, la mise en scène déjà existante, ce que Wiseman fera parfois dans Crazy Horse, son film de 2011, parfois redondant, happé par les numéros colorés et fessus conçus par Philippe de Coufflet pour le Saloon parisien. Mais la comédie française ou l'amour joué, c'est aussi le moment où le cinéaste inverse en quelque sorte sa méthode, cherchant non plus la dramaturgie dans la vie quotidienne, mais l'ordinaire derrière la fiction et le travail de la scène. Le travail, pas seulement la précision des répétitions, mais le soubassement syndical de cette institution à l'organigramme très hiérarchisé. Hein. Pour une fois, Wiseman a dû fréquenter les lieux pendant 3 mois avant de tourner afin de convaincre les différents représentants du personnel de le laisser filmer. Comme le rappelle Catherine Samy, disparue elle aussi récemment et que Wiseman a filmé ensuite dans La Dernière Lettre, elle le rappelle dans une séquence assez inoubliable, la retraite des pensionnaires du français comme elle laisse à désirer et certains sont obligés de mâcher leurs gencives. Les coulisses du spectacle, ce ne sont donc pas seulement des corps laborieux ou transpirants, mais aussi des corps vieillissants qui continuent d'exister même quand ils ont quitté la scène et dont la société doit s'occuper. Vous voyez comment un enjeu politique majeur peut s'inviter autour d'un dentier, pointant le talent de Wiseman pour le détail qui fait mouche. Mais la confrontation de Wiseman avec sa métaphore préférée, le théâtre, permet aussi autre chose, aborder la vie intime et même le sentiment, qui ne peut jamais que s'insinuer dans les portraits d'institutions. Bien sûr, on a vu passer l'amour dans les regards inquiets qu'échange un jeune couple venu demander l'aide sociale dans Welfare, ou ceux gourmands d'un autre couple venu essayer des bijoux hors de prix au grand magasin de The Store. Mais avant d'aller filmer à la comédie française, Wiseman lit les pièces du programme et il s'aperçoit que le thème qui les réunit, c'est l'amour, sous des angles différents, que ce soit chez Marivaux, que ce soit chez Don Juan, dans la Thébaïde ou chez Feydeau. Si 10 ans plus tard, Wiseman jouera dans l'une des pièces les plus profondes et désespérantes sur le couple, « Oh, les beaux jours !» de Samuel Beckett sur la scène du Vieux Colombier, où ils s'entendent dire d'ailleurs « les mots vous lâchent », il est des moments où même eux vous lâchent, lui qui a tant filmé les mots. Si en 2022 il va s'attaquer à l'asymétrie cruelle au sein du mariage dans Un couple, inspiré du journal de la femme de Tolstoï, eh bien la comédie française est décidément le seul film où ce génie du cinéma direct circonscrit l'amour comme un aveu prononcé avec la pudeur de l'indirect. Il choisit au montage de clore les 3h48 de ce film par une citation prononcée par la doyenne centenaire du français et que vous me permettrez, Antoine, de partager avec vous comme un viatique. Et vivre sans aimer n'est pas proprement vivre. Molière, La princesse des Lides, acte 2, scène 1.
Merci Charlotte Garçon. Longue vie au cinéma impérissable de Frédéric Wiseman. 10 de ses films sont visibles en ce moment sur la Cinéthèque, dont certains présentés par ses grands admirateurs Nicolas Philibert et Claire Simon. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Ludovic Auger, Marie-Claire Oumabadi et Éric Perruchot-Triboulet. L'émission a été préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.